Honoré de Balzac, l'interdiction. En 1828, vers 1 h du matin, deux personnes sortaient d'un hôtel situé dans la rue du Faubourg Saint-Honoré, près de l'Élysée Bourbon. L'une était un médecin célèbre, Horace Bianchon, l'autre un des hommes les plus élégants de Paris, le baron de Rostignac, tous deux amis depuis longtemps. Chacun d'eux avait renvoyé sa voiture, il ne s'en trouva point dans le faubourg, mais la nuit était belle et le pavé sec. « Allons à pied jusqu'au boulevard, » dit Eugène de Rastignac à Bianchon. « Tu prendras une voiture au cercle, il y en a là jusqu'au matin. Tu m'accompagneras jusque chez moi. »« Volontiers. »« Eh bien, mon cher, qu'en dis-tu ?»« De cette femme ?» répondit froidement le docteur. « Je reconnais mon Bianchon, » s'écria Rastignac. « Eh bien quoi ? Mais tu parles, mon cher, de la marquise d'Espard comme d'une malade à placer dans ton hôpital. Veux-tu savoir ce que je pense, Eugène ? Si tu quittes Madame de Nucingen pour cette marquise, tu changeras ton cheval borgne contre un aveugle. « Madame de Nucingen a 36 ans, Bianchon. »
« Et celle-ci en a 33, » répliqua vivement le docteur.
« Ses plus cruels ennemis ne lui en donnent que 26.
Mon cher, quand tu auras intérêt à connaître l'âge d'une femme, regarde ses tempes et le bout de son nez. Quoi que fassent les femmes avec leurs cosmétiques, elles ne peuvent rien sur ces incorruptibles témoins de leurs agitations. » Là, chacune de leurs années a laissé ses stigmates. Quand les tempes d'une femme sont attendries, rayées, fanées d'une certaine façon, quand au bout de son nez il se trouve de ces petits points qui ressemblent aux imperceptibles parcelles noires que font pleuvoir à Londres les cheminées où l'on brûle du charbon de terre, votre serviteur, la femme a passé 30 ans. Elle sera belle, elle sera spirituelle, elle sera aimante, elle sera tout ce que tu voudras, mais elle aura passé 30 ans. Mais elle arrive à sa maturité. Je ne blâme pas ceux qui s'attachent à ces sortes de femmes. Seulement un homme aussi distingué que tu l'es ne doit pas prendre une rainette de février pour une petite pomme d'api qui sourit sur sa branche et demande un coup de dent. L'amour ne va jamais consulter les registres de l'état civil. Personne n'aime une femme parce qu'elle a tel ou tel âge, parce qu'elle est belle ou laide, bête ou spirituelle. On aime parce qu'on aime.
Ah, eh bien moi, je l'aime par bien d'autres raisons. Elle est marquise d'Espard, elle est née Blamont-Chauvry, elle est à la mode, elle a de l'âme, elle a un pied aussi joli que celui de la duchesse de Berry. Elle a peut-être 100 000 livres de rente et je l'épouserai peut-être un jour. Enfin, elle paiera mes dettes.
« Je te croyais riche, » dit Bianchon en interrompant Rastignac.
« Bof, j'ai 15 000 livres de rente, précisément ce qu'il faut pour mon écurie. J'ai été roué, mon cher, dans l'affaire de M. de Nucingen. Je te raconterai cette histoire-là. J'ai marié mes sœurs, voilà le plus clair de ce que j'ai gagné depuis que nous nous sommes vus, et j'aime mieux les avoir établis que de posséder 100 000 écus de rente. Maintenant, que veux-tu que je devienne ? J'ai de l'ambition. Où peut me mener Madame de Nucingen ? Encore un an, je serai chiffré, casé, comme l'est un homme marié. J'ai tous les désagréments du mariage et ceux du célibat, sans avoir les avantages ni de l'un ni de l'autre. Situation fausse, à laquelle arrivent tous ceux qui restent trop longtemps attachés à une même jupe.
« Eh, crois-tu donc trouver ici la pionie ?» dit Bianchon. « Ta marquise, mon cher, ne me revient pas du tout.
Tes opinions libérales te troublent l'œil. Si Madame d'Espard était une Madame Rabourdin...
Écoute, mon cher, noble ou bourgeoise, elle serait toujours sans âme. Elle serait toujours le type le plus achevé de l'égoïsme. » « Crois-moi, les médecins sont habitués à juger les hommes et les choses. Les plus habiles d'entre nous confessent l'âme en confessant le corps. Malgré ce joli boudoir où nous avons passé la soirée, malgré le luxe de cet hôtel, serait possible que Madame la Marquise fût endettée. Qui te le fait croire ?
Je n'affirme pas, je suppose.
Elle a parlé de son âme comme feu Louis XVIII parlait de son cœur. Écoute-moi, cette femme frêle, blanche, aux cheveux châtains, et qui se plaint pour se faire plaindre, jouit d'une santé de fer, possède un appétit de loup, une force et une lâcheté de tigre. Jamais ni la gaze, ni la soie, ni la mousseline n'ont été plus habilement tortillées autour d'un mensonge. Écho, tu m'effraies, Blanchon. Tu as donc appris bien des choses depuis notre séjour à la maison Vauquer.
Oui, oh, depuis ce temps-là, mon cher, j'en ai vu des marionnettes, des poupées, des pantins. Je connais un peu de ces belles dames de qui vous soignez le corps et ce qu'elles ont de plus précieux, leur enfant, quand elles l'aiment, ou leur visage, qu'elles adorent toujours. Vous passez les nuits à leur chevet, vous vous exterminez pour leur sauver la plus légère altération de beauté, n'importe où. Vous avez réussi, vous leur gardez le secret, comme si vous étiez mort. Elles vous envoient demander votre mémoire et le trouvent horriblement cher. Qui les a sauvées ? La nature. Loin de vous prôner, elles médisent de vous, en craignant de vous donner pour médecin leurs bonnes amies. Ah, mon cher, ces femmes de qui vous dites « c'est des anges », moi, je les ai vues déshabillées des petites mines sous lesquelles elles couvrent leur âme, aussi bien que des chiffons sous lesquels elles déguisent leurs imperfections sans manière et sans corset. Elles ne sont pas belles. Nous avons commencé par voir bien des graviers, bien des saletés sous le flot du monde, quand nous étions échoués sur le roc de la maison Vauquer. Ce que nous y avons vu n'était rien. Depuis que je vais dans la haute société, j'ai rencontré des monstruosités habillées de satin, des michonneaux en gants blancs, des poirets chamarrés de cordons, des grands seigneurs faisant mieux l'usure que le papa Gobseck. À la honte des hommes, quand j'ai voulu donner une poignée de main à la vertu, je l'ai trouvé grelottant dans un grenier, poursuivi de calomnies, vivotant avec 1500 francs de rente ou d'appointement, et passant pour une folle, pour une originale ou une bête. Enfin, mon cher, ta marquise est une femme à la mode. Et j'ai précisément ces sortes de femmes en horreur. Veux-tu savoir pourquoi ? Une femme qui a l'âme élevée, le goût pur, un esprit doux, le cœur richement étoffé, qui mène une vie simple, n'a pas une seule chance d'être à la mode. Conclu ? Une femme à la mode et un homme au pouvoir sont deux analogies, mais à cette différence près, que les qualités par lesquelles un homme s'élève au-dessus des autres le grandissent et font sa gloire, tandis que les qualités par lesquelles une femme arrive à son empire d'un jour sont d'effroyables vices. Elle se dénature pour cacher son caractère. Elle doit, pour mener la vie militante du monde, avoir une santé de fer sous une apparence frêle. En qualité de médecin, je sais que la bonté de l'estomac exclut la bonté du cœur. Ta femme à la mode ne sent rien. Sa fureur de plaisir a sa cause dans une envie de réchauffer sa nature froide. Elle veut des émotions et des jouissances, comme un vieillard se met en espalier à la rampe de l'opéra. Comme elle a plus de tête que de cœur, elle sacrifie à son triomphe les passions vraies et les amis, comme un général envoie au feu ses plus dévoués lieutenants pour gagner une bataille. La femme à la mode n'est plus une femme, elle n'est ni mère, ni épouse, ni amante. Elle est un sexe dans le cerveau, médicalement parlant. Aussi ta marquise a-t-elle tous les symptômes de sa monstruosité ? Elle a le bec de l'oiseau de proie, l'œil clair et froid, la parole douce. Elle est polie comme l'acier d'une mécanique. Elle émeut tout,
moins le cœur. Il y a du vrai dans ce que tu dis, Bianchon.
Du vrai ? Reprit Bianchon, mais tout est vrai. Crois-tu donc que je n'ai pas été atteint jusqu'au fond du cœur par l'insultante politesse avec laquelle elle me faisait mesurer la distance idéale que la noblesse met entre nous, que je n'ai pas été pris d'une profonde pitié pour ses caresses de chatte en pensant à son but. Dans un an d'ici, elle n'écrirait pas un mot pour me rendre le plus léger service. Et ce soir, elle m'a criblé de sourire, en croyant que je puis influencer mon oncle Popinot, de qui dépend le gain de mon procès. Mon cher, aurais-tu mieux aimé qu'elle te fît des sottises? J'admets ta catilinaire contre les femmes à la mode, mais tu n'es pas dans la question. Je préférerais toujours pour femme une marquise d'Espard à la plus chaste, à la plus recueillie, à la plus aimante créature de la terre. Épouser un ange, mais il faut aller s'enterrer dans son bonheur au fond d'une campagne. La femme d'un homme politique est une machine à gouvernement, une mécanique à beaux compliments, à révérence. Elle est le premier, le plus fidèle des instruments dont se sert un ambitieux. Enfin, c'est un ami qui peut se compromettre sans danger et que l'on désavoue sans conséquence. Suppose Mahomet à Paris au XIXe siècle. Sa femme serait une Rohan, fine et flatteuse, comme une ambassadrice, rusée comme Figaro. Ta femme aimante ne mène à rien. Une femme du monde mène à tout. Elle est le diamant avec lequel un homme coupe toutes les vitres quand il n'a pas de clé d'or avec laquelle s'ouvrent toutes les portes. Aux bourgeois, les vertus bourgeoises. Aux ambitieux, les vices de l'ambition. D'ailleurs, mon cher, crois-tu que l'amour d'une duchesse de Langeais ou de Maufrigneuse ou d'une lady Dudley n'apporte pas d'immenses plaisirs? Si tu savais combien le maintien froid et sévère de ces femmes donne du prix à la moindre preuve de leur affection. Quelle joie de voir une pervenche pointant sous la neige. Un sourire jeté sous l'éventail dément la réserve d'une attitude imposée et qui vaut toutes les tendresses débridées de tes bourgeoises à dévouement hypothétique. Car en amour, le dévouement est bien près de la spéculation. Puis, une femme à la mode, une Blamont-Chavry a ses vertus aussi. Ses vertus sont la fortune, le pouvoir, l'éclat, un certain mépris pour tout ce qui est au-dessous d'elle. Merci, dit Bianchon. Vieux Boniface, répondit en riant Rastignac, allons, ne sois pas vulgaire. Fais comme ton ami Desplein, sois baron, sois chevalier de l'ordre de Saint-Michel, deviens pair de France, et marie tes filles à des ducs. Moi, je veux que les 500 000 diables... Là là, tu n'as donc de supériorité qu'en médecine. Oh, vraiment, tu me fais beaucoup de peine. Mais je hais ces sortes de gens, je souhaite une révolution qui nous en délivre à jamais. Ainsi, cher Robespierre, à l'ancêtre, tu n'iras pas demain chez ton oncle Popinot ?
Si, dit Bianchon, quand il s'agit de toi, j'irai chercher de l'eau en enfer.
Oh, cher ami, tu m'attendris. J'ai juré que le marquis serait interdit. Tiens, je me trouve encore une vieille larme pour te remercier.
Mais, dit Horace en continuant, je ne te promets pas de réussir à vos souhaits près de Jean-Jules Popinot. Tu ne le connais pas. Mais je l'amènerai après-demain, chez ta marquise. Elle l'entendira si elle peut.
Oh, j'en doute. Toutes les truffes, toutes les duchesses, toutes les poulardes et tous les couteaux de guillotine seraient là dans la grâce de leur séduction. Le roi lui promettrait la pairie, le bon Dieu lui donnerait l'investiture du paradis et les revenus du purgatoire. Aucun de ses pouvoirs n'obtiendrait de lui faire passer un fétu de plateau à l'autre de sa balance.
Il est juge comme la mort est la mort. » Les deux amis étaient arrivés devant le ministère des Affaires étrangères au coin du boulevard des Capucines. « Te voilà chez toi !» dit en riant Blanchon, qui lui montra l'hôtel du ministre. « Et voici ma voiture, » ajouta-t-il en montrant un fiacre. « Ainsi, ça résume pour chacun de nous l'avenir. Tu seras heureux au fond de l'eau, tandis que je lutterai toujours à la surface avec les tempêtes, jusqu'à ce qu'en sombrant j'aille te demander place dans ta grotte, mon vieux. « Allez, à samedi !» répliqua Bianchon. « Convenu, » dit Rastignac, « tu me promets le Popinot ?»« Oui, je ferai tout ce que ma conscience me permettra de faire. Peut-être cette demande en interdiction cache-t-elle quelques petits dramoramas pour nous rappeler par un mot notre mauvais bon temps. Pauvre Bianchon, ce sera jamais qu'un honnête homme, » se dit Rastignac en voyant le fiacre s'éloigner. Rastignac m'a chargé de la plus difficile de toutes les négociations, se dit Bianchon, en se souvenant à son lever de la commission délicate qui lui était confiée. Mais je n'ai jamais demandé à mon oncle le moindre petit service au palais, et j'ai fait pour lui plus de 1000 visites gratis. D'ailleurs, entre nous, nous ne nous gênons point. Il me dira oui ou non, puis tout sera fini. Après ce petit monologue, le célèbre docteur se dirigea dès 7 heures du matin vers la rue de Foire, où demeurait M. Jean-Jules Popinot, juge au tribunal de première instance du département de la Seine. La rue du Foire, mot qui signifiait d'autrefois rue de la Paille, fut au XIIIe siècle la plus illustre rue de Paris. Là furent les écoles de l'université, quand la voix d'Abélard et celle de Gerson retentissaient dans le monde savant. Elle est aujourd'hui l'une des plus sales rues du 12e arrondissement, le plus pauvre quartier de Paris, celui dans lequel les 2/3 de la population manquent de boire en hiver, celui qui jette le plus de marmots autour des enfants trouvés, le plus de malades à l'Hôtel-Dieu, le plus de mendiants dans les rues, qui envoie le plus de chiffonniers au coin des bornes, le plus de vieillards souffrant le long des murs où rayonne le soleil, le plus d'ouvriers sans travail sur les places, et le plus de prévenus à la police correctionnelle. Au milieu de cette rue, toujours humide, dont le ruisseau roule vers la Seine, les eaux noires de quelques teintureries, est une vieille maison, sans doute restaurée sous François Ier, et construite en briques maintenues par des chaînes en pierre de taille. Sa solidité semble attestée par une configuration extérieure qu'il n'est pas rare de voir à quelques maisons de Paris. S'il est permis de hasarder ce mot, elle a comme un ventre, produit par le renflement que décrit son premier étage, affaissé sous le poids du second et du troisième, mais que soutient la forte muraille du rez-de-chaussée. Au premier coup d'œil, il semble que les entre-deux des croisées, quoique renforcés par leur bordure en pierre de taille, vont éclater. Mais l'observateur ne tarde pas à s'apercevoir qu'il en est de cette maison comme de la tour de Bologne. Les vieilles briques et les vieilles pierres rongées conservent invinciblement leur centre de gravité. Par toutes les saisons, les solides assises du rez-de-chaussée offrent la teinte jaunâtre et l'imperceptible suintement que l'humidité donne à la pierre. Passant à froid en longeant ce mur où des bornes échancrées le protègent mal contre la roue des cabriolets. Comme dans toutes les maisons bâties avant l'invention des voitures, la baie de la porte forme une arcade extrêmement basse, assez semblable au porche d'une prison. À droite de cette porte sont 3 croisées revêtues extérieurement de grise en fer à mailles si serrées qu'il est impossible aux curieux de voir la destination intérieure des pièces humides et sombres, tant d'ailleurs les vitres sont sales et poudreuses. À gauche sont 2 autres croisées semblables, dont une parfois ouverte permet d'apercevoir le portier, sa femme et ses enfants grouillant, travaillant, cuisinant, mangeant et criant au milieu d'une salle planchelée, boisée, où tout tombe en lambeaux, et où l'on descend par deux marches, profondeur qui semble indiquer le progressif exhaussement du pavé parisien. Si par un jour de pluie, quelques passants s'abritent sous la longue voûte à solives saillantes et blanchies à la chaux qui mène de la porte à l'escalier, il lui est difficile de ne pas contempler le tableau que présente l'intérieur de cette maison. À gauche se trouve un jardinet carré qui ne permet pas de faire plus de 4 enjambées en tous sens, jardin à terre noire où il existe des treillages sans pampres ou à défaut de végétation, il vient à l'ombre de 2 arbres, des papiers, de vieux linges, des tessons, des gravats tombés du toit. Terre infertile, où le temps a jeté sur les murs, sur le tronc des arbres et sur leurs branches, une poudreuse empreinte semblable à de la suie froide. Les 2 corps de logis en équerre dont se compose la maison tirent leur jour de ce jardinet entouré par 2 maisons voisines, bâties en colombage, décrépites, menaçant ruine, où se voient à chaque étage quelques grotesques attestations de l'état exercé par le locataire. Ici, de longs bâtons supportent d'immenses écheveaux de laine teinte qui sèchent. Là, sur des cordes, se balancent des chemises blanchies. Plus haut, des volumes endossés montrent sur un aile leurs tranches fraîchement marbrées. Les femmes chantent, les maris sifflent, les enfants crient. Le menuisier scie ses planches, un tourneur en cuivre fait grincer son métal. Toutes les industries s'accordent pour produire un bruit que le nombre des instruments rend furibond. Le système général de la décoration intérieure de ce passage, qui n'est ni une cour, ni un jardin, ni une voûte, et qui tient de toutes ces choses, consiste en piliers de bois posés sur des dés en pierre et qui figurent des ogives. 2 arcades donnent sur le jardinet, 2 autres qui font face à la porte cochère laissent voir un escalier de bois, dont la rampe fut jadis une merveille de serrurerie, tant le fer y affecte des formes bizarres, et dont les marches usées tremblent sous le pied. Les portes de chaque appartement ont des chambranles bruns de crasse, de graisse, de poussière, et sont garnies de doubles portes revêtues de velours d'Utrecht semées de clous dédorés, disposés en losanges. Ces restes de splendeur annoncent que, sous Louis XIV, cette maison était habitée par quelques conseillers au Parlement, par de riches ecclésiastiques, par quelques trésoriers des partis casuels. Mais ces vestiges de l'ancien luxe attirent un sourire sur les lèvres par un naïf contraste entre le présent et le passé. Monsieur Jean-Jules Popineau demeurait au premier étage de cette maison, où l'obscurité naturelle aux premiers étages des maisons parisiennes était redoublée par l'étroitesse de la rue. Ce vieux logis était connu de tout le 12e arrondissement, auquel la Providence avait donné ce magistrat, comme elle donne une plante bienfaisante pour guérir ou modérer chaque maladie. Voici le croquis de ce personnage que voulait séduire la brillante marquise d'Espard. En qualité de magistrat, M. Popineau était toujours vêtu de noir, costume qui contribuait à le rendre ridicule aux yeux des gens habitués à tout juger sur un examen superficiel. Les hommes, jaloux de conserver la dignité qu'impose ce vêtement, doivent se soumettre à des soins continuels et minutieux. Mais le cher M. Popineau était incapable d'obtenir sur lui-même la propreté puritaine qu'exige le noir. Son pantalon, toujours usé, ressemblait à du voile, étoffe avec laquelle se font les robes d'avocat, et son maintien habituel finissait par y dessiner une si grande quantité de plis qu'il s'y trouvait par place des lignes blanchâtres, rouges ou luisantes, qui dénonçaient une avarice sordide ou la pauvreté la plus insoucieuse. Ses gros bas de laine grimaçaient dans ses souliers déformés. Son linge avait ce ton roux contracté dans l'armoire par un long séjour et qui annonçait en feu Madame Popinot la manie du linge. Suivant la mode flamande, elle ne se donnait sans doute que deux fois par an, l'embarras d'une lessive. L'habit et le gilet du magistrat étaient en harmonie avec le pantalon, les souliers, les bas et le linge. Il avait un bonheur constant dans son incurie, car le jour où il endossait un habit neuf, il l'appropriait à l'ensemble de sa toilette en y faisant des taches avec une inexplicable promptitude. Le bonhomme attendait que sa cuisinière le prévînt de la vétusté de son chapeau pour le renouveler. Sa cravate était toujours tordue sans apprêt, et jamais il ne rétablissait le désordre que son rabat de juge avait mis dans le col de sa chemise recroquevillée. Il ne prenait aucun soin de sa chevelure grise et ne se faisait la barbe que deux fois par semaine. Il ne portait jamais de gants et fourrait habituellement ses mains dans ses goussets vides, dont l'entrée sale, lit presque toujours déchiré, ajoutait un trait de plus à la négligence de sa personne. Quiconque a fréquenté le palais de justice à Paris, endroit où s'observent toutes les variétés du vêtement noir, pourra se figurer la tournure de M. Popinot. L'habitude de siéger pendant des journées entières modifie beaucoup le corps, de même que l'ennui causé par d'interminables plaidoyers agit sur la physionomie des magistrats. Enfermé dans des salles ridiculement étroites, sans majesté d'architecture et où l'air est promptement vicié, le juge parisien prend forcément un visage renfrogné, grimé par l'attention, attristé par l'ennui. Son teint s'étiole, contracte des teintes ou verdâtres ou terreuses, suivant le tempérament de l'individu. Enfin, dans un temps donné, le plus florissant jeune homme devient une pâle machine à considérant, une mécanique appliquant le code sur tous les cas, avec le flegme des volants d'une horloge. Si donc la nature avait doué M. Popinot d'un extérieur peu agréable, la magistrature ne l'avait pas embelli. Sa charpente offrait des lignes heurtées. Ses gros genoux, ses grands pieds, ses larges mains contrastaient avec une figure sacerdotale qui ressemblait vaguement à une tête de veau, douce jusqu'à la fadeur, mais éclairée par des yeux verrons, dénués de sang, fendus par un nez droit et plat, surmontés d'un front sans protubérance, décorés de deux immenses oreilles qui fléchissait sans grâce. Ses cheveux grêles et rares laissaient voir son crâne par plusieurs sillons irréguliers. Un seul trait recommandait ce visage au physionomiste. Cet homme avait une bouche sur les lèvres de laquelle respirait une bonté divine. C'était de bonnes grosses lèvres rouges, à mille plis, sinueuses, mouvantes, dans lesquelles la nature avait exprimé de beaux sentiments. Des lèvres qui parlaient au cœur et annonçaient dans cet homme l'intelligence, la clarté, le don de seconde vue à un angélique esprit. Aussi l'eussiez-vous mal compris en le jugeant seulement sur son front déprimé, sur ses yeux sans chaleur et sur sa piteuse allure. Sa vie répondait à sa physionomie, elle était pleine de travaux secrets et cachait la vertu d'un saint. De fortes études sur le droit l'avaient si bien recommandé qu'en Napoléon réorganisa la justice en 1806 et 1811 que, sur l'avis de Cambacérès, Il fut inscrit, un des premiers, pour siéger à la cour impériale de Paris. Popinot n'était pas intrigant. À chaque nouvelle exigence, à chaque nouvelle sollicitation, le ministre reculait Popinot, qui ne mit jamais les pieds ni chez l'archi-chancelier, ni chez le grand juge. De la cour, il fut exporté sur les listes du tribunal, puis repoussé jusqu'au dernier échelon par les intrigues des gens actifs et remuants. Il fut nommé juge suppléant. Un cri général s'éleva dans le palais. Popinot, juge suppléant ! Cette injustice frappa le monde judiciaire, les avocats, les huissiers, tout le monde, excepté Popinot, qui ne se plaignit point. La première clameur passée, chacun trouva que tout était pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles, qui certes doit être le monde judiciaire. Popinot fut juge suppléant jusqu'au jour où le plus célèbre garde des Sceaux de la Restauration vengea les passe-droits faits à cet homme modeste et silencieux par les grands juges de l'Empire. Après avoir été juge suppléant pendant 12 années, M. Popinot devait sans doute mourir simple juge au tribunal de la Seine. Pour expliquer l'obscure destinée d'un des hommes supérieurs de l'ordre judiciaire, il est nécessaire d'entrer ici dans quelques considérations qui serviront à dévoiler sa vie, son caractère, et qui montreront d'ailleurs quelques-uns des rouages de cette grande machine nommée la justice. M. Popinot fut classé par les 3 présidents qu'eut successivement le tribunal de la Seine dans une catégorie de jugerie, seul mot qui puisse rendre l'idée à exprimer. Il n'obtint pas dans cette compagnie la réputation de capacité que ses travaux lui avaient mérité par avance. De même qu'un peintre est invariablement enfermé dans la catégorie des paysagistes, des portraitistes, des peintres d'histoire, de marine ou de genre, par le public des artistes, des connaisseurs ou des niais, qui par envie, qui par omnipotence critique, qui par préjugé, le barricade dans son intelligence, en croyant tous qu'il existe des calus dans toutes les cervelles. Étroitesse de jugement que le monde applique aux écrivains, aux hommes d'État, à tous les gens qui commencent par une spécialité avant d'être proclamés universels. De même, Popinot eut sa destination et fut cerclé dans son genre. Les magistrats, les avocats, les avoués, tout ce qui pâture sur le terrain judiciaire distingue 2 éléments dans une cause, le droit et l'équité. L'équité résulte des faits, et le droit est l'application des principes aux faits. Un homme peut avoir raison en équité, tort en justice, sans que le juge soit accusable. Entre la conscience et le fait, il est un abîme de raisons déterminantes qui sont inconnues au juge et qui condamne tout légitime un fait. Un juge n'est pas Dieu. Son devoir est d'adapter les faits aux principes, de juger des espèces variées à l'infini, en se servant d'une mesure déterminée. Si le juge avait le pouvoir de lire dans la conscience et de démêler les motifs afin de rendre d'équitables arrêts, chaque juge serait un grand homme. La France a besoin d'environ 6 000 juges. Aucune génération n'a 6 000 grands hommes à son service. À plus forte raison, ne peut-elle les trouver pour sa magistrature. Popinot était au milieu de la civilisation parisienne, un très habile cadi, qui par la nature de son esprit, et à force d'avoir frotté la lettre de la loi dans l'esprit des faits, avait reconnu le défaut des applications spontanées et violentes. Aidé par sa seconde vue judiciaire, il perçait l'enveloppe du double mensonge sous lequel les plaideurs cachent l'intérieur des procès. Juge comme l'illustre Desplein était chirurgien, il pénétrait les consciences comme ce savant pénétrait les corps. Sa vie et ses mœurs l'avaient conduite à l'appréciation exacte des pensées les plus secrètes par l'examen des faits. Il creusait un procès, comme Cuvier fouillait l'humus du globe, et comme ce grand penseur, il allait de déductions en déductions, avant de conclure, et reproduisait le passé de la conscience, comme Cuvier reconstruisait un anopholterium. À propos d'un rapport, il s'éveillait souvent la nuit, surpris par un filon de vérité qui brillait souvent dans sa pensée. Frappé des injustices profondes qui couronnaient ces luttes où tout dessert l'honnête homme et où tout profite aux fripons, il concluait souvent contre le droit en faveur de l'équité dans toutes les causes où il s'agissait de questions en quelque sorte divinatoires. Il passa donc parmi ses collègues pour un esprit peu pratique. Ses raisons longuement déduites allongeaient d'ailleurs les délibérations, et quand Popinot remarqua leur répugnance à l'écouter, il donna son avis brièvement. On dit qu'il jugeait mal ces sortes d'affaires, mais comme son génie d'appréciation était frappant, que son jugement était lucide et sa pénétration profonde, il fut regardé comme possédant une aptitude spéciale pour les pénibles fonctions du juge d'instruction. Il demeura donc juge d'instruction pendant la plus grande partie de sa vie judiciaire. Quoique ses qualités le rendissent éminemment propre à cette carrière difficile, et qu'il eut la réputation d'être un profond criminaliste à qui ses fonctions plaisaient, la bonté de son cœur le mettait constamment à la torture, et il était pris entre sa conscience et sa pitié comme dans un étau. Quoique mieux rétribué que celle de juge civil, les fonctions de juge d'instruction ne tentent personne. Elles sont trop assujettissantes. Popinot, homme de modestie et de vertueux savoir, sans ambition, travailleur infatigable, ne se plaignit pas de sa destination. Il fit au bien public le sacrifice de ses goûts, de sa compatissance, et se laissa déporter dans les lagunes de l'instruction criminelle, où il sut être à la fois sévère et bienfaisant. Parfois, son greffier remettait au prévenu de l'argent pour acheter du tabac ou pour avoir un vêtement chaud en hiver, en le reconduisant du cabinet du juge à la souricière, prison temporaire où l'on tient les prévenus à la disposition de l'instruction. Il savait être juge inflexible et homme charitable. Aussi, nul n'obtenait-il plus facilement que lui des aveux sans recourir aux ruses judiciaires. Il avait d'ailleurs la finesse de l'observateur. Cet homme, d'une bonté niaise en apparence, simple et distrait, devinait les ruses des crispins du bagne, déjouait les filles les plus astucieuses et faisait fléchir les scélérats. Des circonstances peu communes avaient aiguisé sa perspicacité, mais, pour les dire, besoin est de pénétrer dans sa vie intime, car le juge était en lui le côté social, mais un autre homme, plus grand et moins connu, se trouvait en lui. 12 ans avant le jour où cette histoire commence, en 1816, par cette terrible disette qui coïncida fatalement avec le séjour des alliés en France, Popinot fut nommé président de la commission extraordinaire instituée pour distribuer des secours aux indigents de son quartier au moment où il projetait d'abandonner la rue de Foire dont l'habitation ne lui déplaisait pas moins qu'à sa femme. Ce grand jurisconsulte, ce profond criminaliste de qui la supériorité paraissait à ses collègues une aberration, avait depuis 5 ans aperçu les résultats judiciaires sans en voir les causes. En montant dans les greniers, en apercevant les misères, en étudiant les nécessités cruelles qui conduisent graduellement les pauvres à des actions blâmables, en mesurant enfin leur longue lutte, il fut saisi de compassion. Ce juge devint alors le Saint-Vincent de Paul de ses grands enfants de ses ouvriers souffrants. Sa transformation ne fut pas tout à coup complète. La bienfaisance a son entraînement, comme les vices ont le leur. La charité dévore la bourse d'un saint, comme la roulette mange les biens du joueur, graduellement. Popinot alla d'infortune en infortune, d'aumône en aumône. Puis, quand il eut soulevé tous les haillons qui forment à cette misère publique comme un appareil sous lequel s'envenime une plaie fiévreuse, il devint au bout d'un an la providence de son quartier. Il fut membre du comité de bienfaisance et du bureau de charité. Partout où des fonctions gratuites étaient à exercer, il acceptait et agissait sans emphase, à la manière de l'homme au petit manteau qui passe sa vie à porter des soupes dans les marchés et dans les endroits où sont les gens affamés. Popinot avait le bonheur d'agir sur une plus vaste circonférence et dans une sphère plus élevée. Il veillait à tout, il prévenait le crime, il donnait de l'ouvrage aux ouvriers inoccupés, il faisait placer les impotents, il distribuait des secours avec discernement sur tous les points menacés, se constituant le conseil de la veuve, le protecteur des enfants sans asile, le commanditaire des petits commerces. Personne au palais ni dans Paris ne connaissait cette vie secrète de Popinot. Il a des vertus si éclatantes qu'elles comportent l'obscurité. Les hommes s'empressent de les mettre sous le boisseau. Quant aux obligés du magistrat, tous, travaillant pendant le jour et fatigués la nuit, étaient peu propres à le prôner. Ils avaient l'ingratitude des enfants qui ne peuvent jamais s'acquitter parce qu'ils doivent trop. Il y a des ingratitudes forcées, mais quel cœur a pu semer le bien pour récolter la reconnaissance et se croire grand? Dès la deuxième année de son apostolat secret, Popinot avait fini par convertir en un parloir le magasin du rez-de-chaussée de sa maison, qui était éclairé par les trois croisées à gris en fer. Les murs et le plafond de cette grande pièce avaient été blanchis à la chaux, et le mobilier consistait en bancs de bois semblables à ceux des écoles, en une armoire grossière, un bureau de noyer et un fauteuil. Dans l'armoire étaient ses registres de bienfaisance, ses modèles de bons de pain et son journal. Il tenait ses écritures commercialement afin de ne pas être la dupe de son cœur. Toutes les misères du quartier étaient chiffrées, casées dans un livre où chaque malheur avait son compte, comme chez un marchand, les débiteurs divers. Lorsqu'il y avait doute sur une famille, sur un homme à secourir, le magistrat trouvait à ses ordres les renseignements de la police de sûreté. La vienne, domestique fait pour le maître, était son aide-de-camp. Il dégageait ou renouvelait les reconnaissances du monde-piété et courait aux endroits les plus menacés pendant que son maître travaillait au palais. De 4 à 7 heures du matin en été, de 6 à 9 heures en hiver, cette salle était pleine de femmes, d'enfants, d'indigents, auquel Popinot donnait audience. Il n'était nullement besoin de poêle en hiver. La foule abondait si drûment que l'atmosphère devenait chaude. Seulement, la vienne mettait de la paille sur le carreau trop humide. À la longue, les bancs étaient devenus polis comme de la cajou vernie. Puis, à hauteur d'homme, la muraille avait reçu je ne sais quelle sombre peinture appliqué par les haillons et les vêtements délabrés de ces pauvres gens. Ces malheureux aimaient tant Popinot que, quand, avant l'ouverture de sa porte, ils étaient attroupés vers le matin en hiver, les femmes se chauffant avec des gueux, les hommes se brassant pour s'échauffer, jamais un murmure n'avait troublé son sommeil. Les chiffonniers, les gens à état nocturne, connaissait ce logis et voyait souvent le cabinet du magistrat éclairé à des heures indues. Enfin, les voleurs disaient en passant Voilà sa maison, et la respectait. Le matin appartenait aux pauvres, le milieu du jour aux criminels, le soir aux travaux judiciaires. Le génie d'observation que possédait Popinot était donc nécessairement bifrance. Il devinait les vertus de la misère, les bons sentiments froissés, les belles actions en principe, les dévouements inconnus, comme il allait chercher, au fond des consciences, les plus légers linéaments du crime, les fils les plus ténus des délits, pour en tout discerner. Le patrimoine de Popinot valait 1000 écus de rente. Sa femme, sœur de M. Bianchon le père, médecin à Sancerre, lui en avait apporté 2 fois autant. Elle était morte depuis 5 ans et avait laissé sa fortune à son mari. Comme les appointements de juge suppléant ne sont pas considérables et que Popinot n'était juge en pied que depuis 4 ans, il est facile de deviner la cause de sa parcimonie dans tout ce qui concernait sa personne ou sa vie, en voyant combien ses revenus étaient médiocres et combien grande était sa bienfaisance. D'ailleurs, l'indifférence en fait de vêtements, qui signalait en Popinot l'homme préoccupé, n'est-elle pas la marque distinctive de la haute science, de l'art cultivé, follement, de la pensée perpétuellement active? Pour achever ce portrait, il suffira d'ajouter que Popinot était du petit nombre des juges du tribunal de la Seine auxquels la décoration de la Légion d'honneur n'avait pas été donnée. Tel était l'homme que le président de la deuxième chambre du tribunal à laquelle appartenait Popinot, rentré depuis 2 ans parmi les juges civils, avait commis pour procéder à l'interrogatoire du marquis d'Espard sur la requête présentée par sa femme afin d'obtenir une interdiction. La rue du Foire, où fourmillaient tant de malheureux de si grand matin, devenait déserte à 9 heures et reprenait son aspect sombre et misérable. Bianchon pressa donc le trot de son cheval afin de surprendre son oncle au milieu de son audience. Il ne pensa pas sans sourire à l'étrange contraste que produirait le juge auprès de Madame d'Espard, mais il se promit de l'amener à faire une toilette qui ne le rendit pas trop ridicule. « Mon oncle a-t-il seulement un habit neuf ?» se disait Bianchon en entrant dans la rue du Foire, où les croisées du parloir jetaient une pâle lumière. « Je ferais bien, je crois, de m'entendre là-dessus avec la Vienne. » Au bruit du cabriolet, 10aine de pauvres, surpris, sortirent de dessous le porche et se découvrirent en reconnaissant le médecin. Car Bianchon, qui traitait gratuitement les malades que lui recommandait le juge, n'était pas moins connu que lui des malheureux assemblés là. Bianchon aperçut son oncle au milieu du parloir, dont les bancs étaient en effet garnis d'indigents qui présentaient les grotesques singularités de costumes à l'aspect desquels s'arrêtent en pleine rue les passants les moins artistes. Certains dessinateurs, un Rembrandt, s'il en existait un de nos jours, aurait conçu là l'une de ses plus magnifiques compositions, en voyant ces misères naïvement posées et silencieuses. Ici la rugueuse figure d'un austère vieillard à barbe blanche, au crâne apostolique, offrait un Saint-Pierre tout fait. Sa poitrine, découverte en partie, laissait voir des muscles saillants, indice d'un tempérament de bronze qui lui avait servi de point d'appui pour soutenir tout un poème de malheur. Là, une jeune femme donnait à téter à son dernier enfant pour l'empêcher de crier, en en tenant un autre, âgé de 5 ans environ, entre ses genoux. Ce sein, dont la blancheur éclatait au milieu des haillons, cet enfant à chair transparente et son frère, dont la pose révélait un avenir de gamin, attendrissaient l'âme par une sorte d'opposition à demi gracieuse avec la longue file de figures rougies par le froid au milieu de laquelle apparaissait cette famille. Plus loin, une vieille femme, pâle et froide, présentait ce masque repoussant du paupérisme en révolte, prête à venger en un jour de sédition toutes ses peines passées. Il y était aussi l'ouvrier, jeune, débile, paresseux, de qui l'œil plein d'intelligence annonçait de hautes facultés, mais comprimées par des besoins vainement combattus, se taisant sur ses souffrances, et prêt de mourir, faute de rencontrer l'occasion de passer entre les barreaux de l'immense vivier où s'agitent ces misères qui s'entre-dévorent. Les femmes étaient en majorité. Leurs maris, partis pour leurs ateliers, leur laissaient sans doute le soin de plaider la cause du ménage, avec cet esprit qui caractérise la femme du peuple, presque toujours la reine dans son taudis. Vous eussiez vu sur toutes les têtes des foulards déchirés, des robes bordées de boue, des fichus en lambeaux, des casaquins sales et troués, mais partout des yeux qui brillaient comme autant de flammes vives. Réunion horrible, dont l'aspect inspirait d'abord le dégoût, mais qui bientôt causait une sorte de terreur, au moment où l'on apercevait que purement fortuite la résignation de ces âmes aux prises avec tous les besoins de la vie était une spéculation fondée sur la bienfaisance. Les deux chandelles qui éclairaient le parloir vacillaient dans une espèce de brouillard causé par la puante atmosphère de ce lieu mal aéré. Le magistrat n'était pas le personnage le moins pittoresque au milieu de cette assemblée. Il avait sur la tête un bonnet de coton roussâtre. Comme il était sans cravate, son cou, rouge de froid et ridé, se dessinait nettement au-dessus du collet pelé de sa vieille robe de chambre. Sa figure fatiguée offrait l'expression à demi stupide que donne la préoccupation. Sa bouche, pareille à celle de tous ceux qui travaillent, s'était ramassée comme une bourse dont on a serré les cordons. Son front contracté semblait supporter le fardeau de toutes les confidences qui lui étaient faites. Il sentait, analysait et jugeait. Attentif autant qu'un prêteur à la petite semaine, ses yeux quittaient ses livres et ses renseignements pour pénétrer jusqu'au fort intérieur des individus qu'il examinait avec la rapidité de vision par laquelle les avares expriment leurs inquiétudes. Debout derrière son maître, prêt à exécuter ses ordres, Lavienne faisait sans doute la police et accueillait les nouveaux venus en les encourageant contre leur propre honte. Quand le médecin parut, il se fit un mouvement sur les bancs. Lavienne tourna la tête et fut étrangement surprise de voir Bianchon. « Ah, te voilà, mon garçon !» dit Popinot en se détirant les bras. « Qui t'amène à cette heure ?»« Je craignais que vous ne fissiez aujourd'hui, sans m'avoir vu, certaines visites judiciaires au sujet de laquelle je veux vous entretenir. » « Eh bien, » reprit le juge en s'adressant à une grosse petite femme qui restait debout près de lui, « si vous ne me dites pas ce que vous avez, je ne devinerai pas ma fille. »« Dépêchez-vous, » lui dit Lavienne, « ne prenez pas le temps des autres. »« monsieur, » dit enfin la femme en rougissant et baissant la voix de manière à n'être entendue que de Popinot et de Lavienne, « je suis marchande des quatre saisons. » J'ai mon petit dernier pour lequel je dois les mois de nourrice. Donc, j'avais caché mon pauvre argent. Eh bien, votre homme l'a pris, dit Popinot en devinant le dénouement de la confession. Oui, monsieur. Comment vous nommez-vous? La Pomponne. Votre mari? Toupinet. « Rue du Petit Banquier, » reprit Popinot en feuilletant son registre. « Il est en prison, » dit-il, en lisant une observation en marge de la case où ce ménage était inscrit. « Pour dette, mon cher monsieur. » Popinot hocha la tête. « Mais Monsieur, je n'ai pas de quoi garnir ma brouette. Le propriétaire est venu hier et m'a forcé de le payer, sans quoi j'étais à la porte. »
La vienne se pencha vers son maître et lui dit quelques mots à l'oreille.
« Eh bien, que vous faut-il pour acheter votre fruit à la halle ?»«
Mon cher monsieur, j'aurais besoin, pour continuer mon commerce, de... »« Oui, j'aurais besoin de 10 francs. »
Le juge fit un signe à la vienne, qui tira d'un grand sac 10 francs, et les donna à la femme pendant que le juge inscrirait le prêt sur son registre. À voir le mouvement de joie qui fit tressaillir la marchande, Bianchon devina les anxiétés par lesquelles cette femme avait été sans doute agitée en venant de sa maison chez le juge.
À vous, dit la vienne au vieillard à barbe blanche.
Bianchon tira le domestique à part, et sans qui du temps que prendrait cette audience.
Ah, monsieur a eu 200 personnes ce matin. En voici encore 80 à faire, dit la vienne. Monsieur le docteur aurait le temps d'aller à ses premières visites.
Mon garçon, dit le juge en se retournant et saisissant Horace par le bras, tiens, voici 2 adresses, ici près. L'une rue de Seine et l'autre rue de l'Arbalète. Courzy, rue de Seine, une jeune fille vient de s'asphyxier, et tu trouveras rue de l'Arbalète un homme à faire entrer à ton hôpital. Allez, je t'attendrai pour déjeuner.
Bianchon revint au bout d'une heure. La rue du Foire était déserte, le jour commençait à poindre, son oncle remontait chez lui, le dernier pauvre de qui le magistrat venait de panser l'âme s'en allait. Le sac de la vienne était vide.
« Eh bien, comment vont-ils ? » dit le juge au docteur en montant l'escalier.
« L'homme est mort, » répondit Bianchon. « La jeune fille s'en tirera. »
Depuis que l'œil et la main d'une femme y manquaient, l'appartement où demeurait Popinot avait pris une physionomie en harmonie avec celle du maître. L'incurie de l'homme, emportée par une pensée dominante, imprimait son cachet bizarre en toute chose. Partout une poussière invétérée, partout dans les objets ces changements de destination dont l'industrie rappelait ceux des ménages de garçons. C'était des papiers dans des vases de fleurs, des bouteilles d'encre vide sur des meubles, des assiettes oubliées, des briquets phosphoriques convertis en bougeoirs, au moment où il fallait faire une recherche, des déménagements partiels commencés et oubliés, enfin, tous les encombrements et les vides occasionnés par des pensées de rangement abandonnées. Mais le cabinet du magistrat, particulièrement remué par ce désordre incessant, accusait sa marche sans halte. L'entraînement de l'homme accablé d'affaires est poursuivi par des nécessités qui se croisent. La bibliothèque était comme au pillage, les livres traînaient, les empilés, le dos dans les pages ouvertes, les autres tombés, les feuillets contre terre, les dossiers de procédure disposés en ligne le long du corps de la bibliothèque encombraient le parquet. Ce parquet n'avait pas été frotté depuis 2 ans. Les tables et les meubles étaient chargés d'ex-voto apportés par la misère reconnaissante. Sur les cornets en verre bleu qui ornaient la cheminée se trouvaient 2 globes de verre à l'intérieur desquels étaient répandues diverses couleurs mêlées, ce qui leur donnait l'apparence d'un curieux produit de la nature. Des bouquets en fleurs artificielles, des tableaux où le chiffre de Popinot était entouré de cœurs et d'immortels décoraient les murs, et ici des boîtes en ébénisterie prétentieusement faites et qui ne pouvait servir à rien. Là, des serre-papiers travaillaient dans le goût des ouvrages exécutés en bagne par des forçats. Et ces chefs-d'œuvre de patience, ces rébus de gratitude, ces bouquets desséchés, donnaient au cabinet et à la chambre du juge l'air d'une boutique de jouets d'enfants.
Le bonhomme se faisait des mémentos de ses ouvrages, il les emplissait de notes, de plumes oubliées, de menus papiers. Ces sublimes témoignages d'une charité divine étaient pleins de poussière, sans fraîcheur. Quelques oiseaux, parfaitement empaillés, mais rongés par les mites, se dressaient dans cette forêt de colifichets où dominait un angora, le chat favori de Madame Popinot, à laquelle un naturaliste, sans le sou, l'avait restitué sans doute avec toutes les apparences de la vie, payant ainsi, par un trésor éternel, une légère aumône. Quelque artiste du quartier, de qui le cœur avait égaré les pinceaux, avait également fait les portraits de Monsieur et de Madame Popinot. Jusque dans l'alcôve de la chambre à coucher se voyaient des pelotes brodées, des paysages en point de marque et des croix en papier pliées dont les fioritures décelaient un travail insensé. Les rideaux de fenêtres étaient noircis par la fumée et les draperies n'avaient plus aucune couleur. Entre la cheminée et la longue table carrée sur laquelle travaillait le magistrat, la cuisinière avait servi deux tasses de café au lait sur un guéridon. Deux fauteuils d'acajou garnis en étoffe de crin attendaient l'oncle et le neveu. Comme le jour intercepté par les croisés n'arrivait pas jusqu'à cette place, la cuisinière avait laissé deux chandelles dont la mèche, démesurément longue, formait champignon et jetait cette lumière rougeâtre qui fait durer la chandelle par la lenteur de la combustion. Découverte due aux avares. Cher oncle, vous devriez vous vêtir plus chaudement quand vous descendez à ce parloir. Oh, je me fais scrupule de les faire attendre, ces pauvres gens. Eh bien, que me veux-tu, toi? Mais je viens inviter à dîner demain chez la marquise d'Espard. « Une de nos parentes ?» demanda le juge d'un air si naïvement préoccupé que Bianchon se mit à rire. « Non, non, mon oncle, la marquise d'Espard est une haute et puissante dame qui a présenté une requête au tribunal à l'effet de faire interdire son mari. Et vous avez été commis... »«
Et tu veux que j'aille dîner chez elle? Es-tu fou ?»
dit le juge en saisissant le code de procédure.
Tiens, lis donc l'article qui défend au magistrat de boire et de manger chez l'une des parties qu'il doit juger.
Qu'elle vienne me voir si elle a quelque chose à me dire, ta marquise. Je devais en effet aller demain interroger son mari, après avoir examiné l'affaire pendant la nuit prochaine. Il se leva, prit un dossier qui se trouvait sous un serre-papier à portée de sa vue, et dit, après en avoir lu l'intitulé, « Voici les pièces, puisque cette haute et puissante dame t'intéresse, dit-il, voyons la requête. » Popinot croisa sa robe de chambre dont les pans retombaient toujours en laissant sa poitrine à nu. Il trempa ses mouillettes dans son café refroidi et chercha la requête qu'il lut en se permettant quelques parenthèses et quelques discussions auxquelles son neveu prit part. À monsieur le président du tribunal civil de première instance du département de la Seine, séant au palais de justice. Madame Jeanne Clémentine Athénaïs de Blamont-Chauvry, épouse de M. Charles-Maurice-Marie Andoche, comte de Nègrepelisse, marquis d'Espard, bonne noblesse, propriétaire, la dite dame d'Espard, au demeurant rue du Faubourg Saint-Honoré numéro 104, et le dissieur d'Espard, rue de la Montagne Sainte-Geneviève, numéro 22. Ah oui, monsieur le président m'a dit que c'était dans mon quartier. Ayant maître Desroches pour avoué, Au dérange, un petit faiseur d'affaires, un homme mal vu du tribunal et de ses confrères qui nuit à ses clients. Pauvre garçon, dit Bianchon, il est malheureusement sans fortune et il se démène comme un diable dans un bénitier, et voilà tout.
À l'honneur de vous exposer, monsieur le président, que depuis une année, les facultés morales et intellectuelles de monsieur d'Espard, son mari, ont subi une altération si profonde qu'elles constituent aujourd'hui l'état de démence et d'imbécillité prévu par l'article 486 du Code civil et appellent au secours de sa fortune, de sa personne et dans l'intérêt de ses enfants qu'il garde près de lui, l'application des dispositions voulues par le même article. Qu'en effet, l'état moral de M. d'Espard, qui depuis quelques années offrait des craintes graves fondées sur le système adopté par lui pour le gouvernement de ses affaires, a parcouru, pendant cette dernière année surtout, une déplorable échelle de dépression, que la volonté la première a ressenti les effets du mal et que son anéantissement a laissé M. le marquis d'Espard livré à tous les dangers d'une incapacité constatée par les faits suivants. Depuis longtemps, tous les revenus que procurent les biens du marquis d'Espard passent sans cause plausible et sans avantage, même temporaire, à une vieille femme de qui la laideur repoussante est généralement remarquée et nommée Madame Jeanrenaud, demeurant tantôt à Paris, rue de la Vrillière, numéro 8, tantôt à Villeparisis, Préclay, département de Seine-et-Marne, et au profit de son fils, âgé de 36 ans, officier de l'ex-garde impériale, que, par son crédit, M. le marquis d'Espard a placé dans la garde royale en qualité de chef d'escadron au 1er régiment de cuirassiers. Ces personnes, réduites en 1814 à la dernière misère, ont successivement acquis des immeubles d'un prix considérable, entre autres et dernièrement, un hôtel grand de rue Verte où le sieur Jeanrenaud fait actuellement des dépenses considérables afin de s'y établir avec la dame Jeanrenaud, sa mère, en vue du mariage qu'il poursuit. Lesquelles dépenses s'élèvent déjà à plus de 100 000 francs. Ce mariage est procuré par les démarches du marquis d'Espard auprès de son banquier, le sieur Mongenot, duquel il a demandé la nièce en mariage pour le dit sieur Jeanrenaud, en promettant son crédit pour lui obtenir la dignité de baron. Cette nomination a eu lieu effectivement par ordonnance de Sa Majesté en date du 29 décembre dernier, sur les sollicitations du marquis d'Espard, ainsi qu'il peut en être justifié par Sa Grandeur Monseigneur le Garde des Sceaux, si le tribunal jugeait à propos de recourir à son témoignage. Aucune raison, même prise parmi celles que la morale et la loi éprouvent également, ne peut justifier l'empire que la dame veuve Jeanrenaud a pris sur le marquis d'Espard, qui d'ailleurs la voit très rarement, ni expliquer son étrange affection pour le dit sieur baron Jeanrenaud, avec qui ses communications sont peu fréquentes. Cependant, leur autorité se trouve être si grande que chaque fois qu'ils ont besoin d'argent, fût-ce même pour satisfaire de simples fantaisies, cette dame ou son fils...
Hé hé! Raison que la morale et la loi éprouvent. Que veut nous insinuer le clerc ou l'avoué? Dit Popinot.
Bianchon se mit à rire. Cette dame ou son fils obtiennent, sans aucune discussion du marquis d'Espard, ce qu'il demande, et à défaut d'argent comptant, M. d'Espard signe des lettres de change négocié par le sieur Mongenot, lequel a fait offre à l'exposante d'en témoigner, que, d'ailleurs, à l'appui de ces faits,
Il est arrivé récemment, lors du renouvellement des baux de la terre d'Espard, que les fermiers, ayant donné une somme assez importante pour la continuation de leur contrat, le sieur Jean Renaud s'en est fait faire immédiatement la délivrance. Que la volonté du marquis d'Espard a si peu de concours à l'abandon de ces sommes, que quand il en eut été parlé, il n'a point paru s'en souvenir. Que toutes les fois que des personnes graves l'ont questionné sur son dévouement à ces deux individus, ses réponses ont indiqué une si entière abnégation de ses idées, de ses intérêts, qu'il existe nécessairement en cette affaire une cause occulte sur laquelle l'exposante appelle l'œil de la justice, attendu qu'il est impossible que cette cause ne soit pas criminelle, abusive et tortionnaire, ou d'une nature appréciable par la médecine légale, si toutefois cette obsession n'est pas de celle qui rentre dans l'abus des forces morales et qu'on ne peut qualifier qu'en se servant du terme extraordinaire de possession.
« Diable !» reprit Pompidou. « Que dis-tu de cela, toi, docteur ? Ces faits-là sont bien étranges. »
« Il pourrait être, répondit Bianchot, un effet du pouvoir magnétique.
Tu crois donc aux bêtises de Mesmer, à son baquet, à la vue au travers des murailles ?»«
Oui, mon oncle, dit gravement le docteur. En vous entendant lire cette requête, j'y pensais. Je vous déclare que j'ai vérifié dans une autre sphère d'action. » Plusieurs faits analogues relativement à l'Empire sans bornes qu'un homme peut acquérir sur un autre. Je suis, contrairement à l'opinion de mes confrères, entièrement convaincu de la puissance de la volonté considérée comme une force motrice. J'ai vu, tout compérage et charlatanisme à part, les effets de cette possession. Les actes promis au magnétiseur par le magnétisé pendant le sommeil, ont été scrupuleusement accomplis dans l'état de veille. La volonté de l'un était devenue la volonté de l'autre.
Toute espèce d'acte ?
Oui.
Même criminel ?
Il faut que ce soit toi pour que je t'écoute. Je vous en rendrai témoin, dit Bianchon. Fit le juge, en supposant que la cause de cette prétendue possession appartint à cet ordre de fait, elle serait difficile à constater et à faire admettre en justice.
Je ne vois pas, si cette dame Jean Renaud est affreusement laide et vieille, quel autre moyen de séduction elle pourrait avoir, dit Bianchon.
Mais, reprit le juge, en 1814, époque à laquelle la séduction aurait éclaté, cette femme devait avoir 14 ans de moins. S'il a été lié 10 ans auparavant avec M. d'Espard, ses calculs de date nous reportent à 24 ans en arrière, époque à laquelle la dame pouvait être jeune, jolie, et avoir conquis, par des moyens fort naturels, pour elle aussi bien que pour son fils, sur M. d'Espard, un empire auquel certains hommes ne savent pas se soustraire. Si la cause de cet empire semble répréhensible aux yeux de la justice, il est justiciable aux yeux de la nature. Madame Jean Renaud aura pu se fâcher du mariage contracté, probablement vers ce temps par le marquis d'Espard, avec mademoiselle de Blamont-Chauvry, et il pourrait y avoir au fond de ceci qu'une rivalité de femmes, puisque le marquis ne demeure plus depuis longtemps avec madame d'Espard. Mais cette laideur repoussante, mon oncle, la puissance des séductions, reprit le juge, est en raison directe avec la laideur, vieille question. D'ailleurs, et la petite vérole, docteur. Mais continuons. Que,
Dès l'année 1815, pour fournir aux sommes exigées par ces deux personnes, monsieur le marquis d'Espard est allé se loger avec les deux enfants, rue de la Montagne Sainte-Geneviève, dans un appartement dont le dénuement est indigne de son nom et de sa qualité. On se loge comme on veut. Qu'il y détient ses deux enfants, le comte Clément d'Espard et le vicomte Camille d'Espard, dont les habitudes d'une vie en désaccord avec leur avenir, avec leur nom et leur fortune, que souvent le manque d'argent est tel que récemment le propriétaire, un sieur Mareste, fit saisir les meubles, garnissant les lieux, que quand cette voie de poursuite fut effectuée en sa présence, le marquis d'Espard a aidé l'huissier, qu'il a traité comme un homme de qualité, en lui prodiguant toutes les marques de courtoisie et d'attention qu'il aurait eues pour une personne élevée au-dessus de lui en dignité. L'oncle et le neveu se regardèrent en riant. Que, d'ailleurs, tous les actes de sa vie, en dehors des faits allégués à l'égard de la dame veuve Jean Renaud et du sieur baron Jean Renaud, son fils, sont empreints de folie, que, depuis bientôt 10 ans, il s'occupe si exclusivement de la Chine, de ses coutumes, de ses mœurs, de son histoire, qu'il rapporte tout aux habitudes chinoises, que, questionné sur ce point, il confond les affaires du temps, les événements de la veille avec les faits relatifs à la Chine, qu'il censure les actes du gouvernement et la conduite du roi, quoique, d'ailleurs, il l'aime personnellement en les comparant à la politique chinoise, que cette monomanie a poussé le marquis d'Espard à des actions dénuées de sens, que, contre les habitudes de son rang et les idées qu'il professait sur le devoir de la noblesse, il a entrepris une affaire commerciale pour laquelle il souscrit journellement des obligations à terme qui menacent aujourd'hui son honneur et sa fortune, attendu qu'elles emportent pour lui la qualité de négociant et peuvent, faute de paiement, le faire déclarer en faillite, que ces obligations contractées envers les marchands de papier, les imprimeurs, les lithographes et les coloristes qui ont fourni les éléments nécessaires à cette publication intitulée « Histoire pittoresque de la Chine » et paraissant par livraison, sont d'une telle importance que ces mêmes fournisseurs ont supplié l'exposante de requérir l'interdiction du marquis d'Espard afin de sauver leurs créances. « Mais cet homme est un fou !» s'écria Bianchon. « Tu crois cela, toi ?» dit le juge. « Il faut l'entendre. Qui n'écoute qu'une cloche, n'entend qu'un son. » « Mais il me semble, » dit Bianchon. « Mais il me semble, » dit Popineau, « que si quelqu'un de mes parents voulait s'emparer de l'administration de mes biens, et qu'au lieu d'être un simple juge de qui les collègues peuvent examiner tous les jours l'état moral, je fusse duc et pair, un avoué quelque peu rusé, comme des roches, pourrait dresser une requête semblable contre moi. » Que l'éducation de ses enfants a souffert de cette monomanie et qu'il leur a fait apprendre, contrairement à tous les usages de l'enseignement, les faits de l'histoire chinoise qui contredisent les doctrines et la religion catholique et leur a fait apprendre les dialectes chinois. « Ah, ici Desroches me paraît drôle, » dit Bianchon. La requête a été dressée par quelques premiers clercs qui n'étaient pas très chinois, dit le juge. Qu'il laisse souvent ses enfants dénuer des choses les plus nécessaires, que l'exposante, malgré ses instances, ne peut les voir, que le sieur marquis d'Espard les lui amène une seule fois par an, que, sachant les privations auxquelles ils sont soumis, elle a fait de vains efforts pour leur donner les choses les plus nécessaires à l'existence et desquelles ils manquaient. Oh, oh,
madame la marquise, voici des farces qui prouvent trop ne prouvent rien. »
Mon cher enfant, dit le juge en laissant le dossier sur ses genoux, quelle est la mère qui jamais a manqué de cœur, d'esprit, d'entrailles, au point de rester au-dessous des inspirations suggérées par l'instinct animal?
Une mère est aussi rusée pour arriver à ses enfants qu'une jeune fille peut l'être pour conduire à bien une intrigue d'amour.
Si ta marquise avait voulu nourrir ou vêtir ses enfants, le diable n'en aurait certes pas empêché, hein?
Elle est un peu trop longue, cette couleuvre, pour un vieux juge.
Continuons. Que l'âge auquel arrivent les 10 enfants exige dès à présent qu'il soit pris des précautions pour les soustraire à la funeste influence de cette éducation, qu'il y soit pourvu selon leur rang et qu'il n'ait point sous les yeux l'exemple que leur donne la conduite de leur père, qu'à l'appui des faits présentement allégués, il existe des preuves dont le tribunal obtiendra facilement la répétition. Maintes fois, M. d'Espard a nommé le juge de paix du 12e arrondissement un mandarin de 3e classe. Il a souvent appelé les professeurs du collège Henri IV des lettrés. Il s'en fâche. À propos des choses les plus simples, il a dit que cela ne se passait pas ainsi en Chine. Il fait, dans le cours d'une conversation ordinaire, allusion soit à la dame Jeanrenaud, soit à des événements arrivés sous le règne de Louis XIV et demeure alors plongé dans une mélancolie noire. Il s'imagine parfois être en Chine. Plusieurs de ses voisins, notamment les sieurs Edme Berker, étudiant en médecine, Jean-Baptiste Frémiot, professeur, domicilié dans la même maison, pense, après avoir pratiqué le marquis d'Espard, que sa monomanie, en tout ce qui est relatif à la Chine, est une conséquence d'un plan formé par le sieur baron Jeanrenaud et la dame veuve sa mère pour achever l'anéantissement des facultés morales du marquis d'Espard, attendu que le seul service que paraît rendre à monsieur d'Espard la dame Jeanrenaud et de lui procurer tout ce qui a rapport à l'Empire de la Chine. Qu'enfin, l'exposante offre de prouver au tribunal que les sommes absorbées par les sieurs et dames veuves Jeanrenaud de 1814 à 1828 ne s'élèvent pas à moins d'1 million de francs. À la confirmation des faits qui précèdent, l'exposante offre à monsieur le président de témoignage des personnes qui voit habituellement monsieur le marquis d'Espard et dont les noms et qualités sont désignés ci-dessous, parmi lesquels beaucoup l'ont supplié de provoquer l'interdiction de monsieur le marquis d'Espard comme le seul moyen de mettre sa fortune à l'abri de sa déplorable administration et ses enfants loin de sa funeste influence. Se considérer, monsieur le président, et vu les pièces si jointes, l'exposante requiert qu'il vous plaise, attendu que les faits qui précèdent prouvent évidemment l'état de démence et d'imbécilité de monsieur le marquis d'Espard, ci-dessus nommé, qualifié et domicilié, ordonnez que, pour parvenir à l'interdiction dit celui, la présente requête et les pièces à l'appui seront communiquées à monsieur le procureur du roi et commettre l'un de messieurs les juges du tribunal à l'effet de faire le rapport au jour que voudrait bien indiquer pour être sur le tout par le tribunal statué ce qu'il appartiendra et vous ferez justice, etc., etc. « Et voici, dit Popinot, l'ordonnance du président qui me commet. Eh bien, que veut de moi la marquise d'Espard? Je sais tout. J'irai demain avec mon greffier chez monsieur le marquis, car ceci ne me paraît pas clair du tout. Oh, écoutez, mon cher oncle, je ne vous ai jamais demandé le moindre petit service qui eût trait à vos fonctions judiciaires, eh bien,
Je vous prie d'avoir pour Madame de Spar une complaisance que mérite sa situation. Si elle venait ici, vous l'écouteriez?
Oui.
Eh bien, allez l'entendre chez elle. Madame de Spar est une femme maladive, nerveuse, délicate, qui se trouverait mal dans votre Niara. Allez-y le soir, au lieu d'y accepter à dîner, puisque la loi vous défend de boire et de manger chez vos justiciables. La loi ne vous défend-elle pas de recevoir des laits de vos morts? Dit Popinot, croyant apercevoir une teinte d'ironie sur les lèvres de son neveu. Allons, mon oncle, quand ce ne serait que pour deviner le vrai de cette affaire, accordez-moi ma demande. Vous viendrez là comme juge d'instruction, puisque les choses ne vous semblent pas claires. Diantre, l'interrogatoire de la marquise n'est pas moins nécessaire que celui de son mari. Tu as raison, dit le magistrat. Elle pourrait bien être la folle. J'irai. Je viendrai vous prendre et écrivez sur votre agenda demain soir à 9 h chez Madame d'Espard. Bien, dit Blanchon en voyant son oncle notant le rendez-vous. Le lendemain soir, à 9 h, le docteur Bianchon monta le poudreux escalier de son oncle et le trouva travaillant à la rédaction de quelques jugements épineux. L'habit demandé par la Vienne n'avait pas été apporté par le tailleur, en sorte que Popinot prit son vieil habit plein de taches et fut le Popinot incomptus dont l'accès excitait le rire sur les lèvres de ceux auxquels sa vie intime était inconnue. Bianchon obtint cependant de mettre en ordre la cravate de son oncle et de lui boutonner son habit. Il en cacha les taches en croisant les revers des basques de droite à gauche et présentant ainsi la partie encore neuve du drap. Mais, en quelques instants, le juge retroussa son habit sur sa poitrine par la manière dont il mit ses mains dans ses goussets, en obéissant à son habitude. L'habit, démesurément plissé par devant et par derrière, forma comme une bosse au milieu du dos et produisit entre le gilet et le pantalon une solution de continuité par laquelle se montra la chemise. Pour son malheur, Bianchon ne s'aperçut de ce surcroît de ridicule qu'au moment où son oncle se présenta chez la marquise. Une légère esquisse de la vie de la personne chez laquelle se rendaient en ce moment le docteur et le juge est ici nécessaire pour rendre intelligible la conférence que Popinot allait avoir avec elle.